Chapitre 2. Hep, hep, sur le charreton à deux roues qu'il conduit lui-même, correct et droit, les guides hautes, Paul Astier file bon train vers son mystérieux déjeuner d'affaires. Le Port-Royal, les quais, la place de la Concorde. Dans ce décor de terrasse, de verdure et d'eau, avec un peu de fantaisie en tête, il pourrait croire que c'est l'aile de la fortune qui l'emporte, tant la route est unie, la matinée splendide. Mais le garçon n'a pas le crâne mythologique et, tout en roulant, il inspecte les cuirs neufs de l'attelage, s'informe du grainetier au jeune groom rablé, tassé auprès de lui, l'air blagueur et rageur d'un petit ratier d'écurie. Encore un, paraît-il, ce grainetier, qui renacle sur la fourniture. Ah, fait Paul, distraitement occupé déjà d'autre chose. Les confidences de sa mère lui trottent dans l'esprit. 53 ans, la belle Antonia. Ce dos, ses épaules, le plus parfait décolletage de la saison. C'est pas Dieu croyable. Hep, hep. Il se rappelle à Mousseau l'été dernier, levé avant tout le monde, courant le parc avec ses chiens dans la rosée, cheveux au vent, la bouche fraîche. Ça n'avait pourtant pas l'air d'une femme fabriquée, même qu'un jour, en landau, il s'est fait remiser, oh, mais remiser sans un mot, rien que d'un coin d'œil, comme un domestique, pour avoir seulement frôlé une jambe d'ébée, longue, fine, solide. 53 ans, cette jambe-là, oh, jamais de la vie. Allez, hep, hep, garde orgue, est-il traite se tournant du rond-point de l'avenue à d'alerte. C'est égal, un sale coup qu'on lui monte à cette pauvre femme, de lui marier son prince. Car enfin, maman m'a beau dire, le salon de la duchesse leur a rudement servi à tous. Est-ce que le père serait de l'académie sans elle? Lui-même, toutes ses commandes, et l'héritage oisillon, la perspective de ce beau logement sous la coupole. Non, oh, décidément, les femmes comme rosseries. Et avec ça que les hommes se datissent quand on pense tout ce qu'elle a fait pour lui. Ruiné, vidé, une loque lorsqu'ils se sont connus. Aujourd'hui, ministre plénipotentiaire, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, pour un livre dont il n'a pas écrit un mot, « La mission de la femme dans le monde ». Et pendant qu'elle travaille à lui décrocher une ambassade, lui n'attend que le décret de l'officiel pour filer à l'anglaise, et après 15 ans d'un bonheur sans mélange, poser à sa duchesse un de ses lapins. En voilà un qui l'a comprise, la mission de la femme dans le monde. Faudrait voir à ne pas être plus serein que lui. Allez, hep, hep, porte, s'il vous plaît. Le monologue est fini. Le charreton est en arrêt devant un hôtel de la rue de Courcelles, dont le portail s'ouvre à deux battants, très lent, très lourd, comme faisant une besogne dont il aurait perdu depuis longtemps l'habitude. C'est là que vivait, cloîtré depuis son deuil et la tragique aventure qui la fit veuve à 26 ans, la princesse Colette de Rosen. Les chroniques du temps ont raconté le désespoir à grand fracas de ce jeune veuvage, les cheveux blonds coupés ras, jetés dans la bière, la chambre transformée en chapelle ardente, les repas solitaires à deux couverts, et sur la table de l'antichambre, à leur place ordinaire, la canne, les gants, le chapeau du prince, comme s'il était là, comme s'il allait sortir. Mais ce dont personne n'avait parlé, c'est le dévouement affectueux, la sollicitude presque maternelle de Madame Astier pour la pauvre petite en ces circonstances douloureuses. La liaison de ces dames datait de quelques années, d'un prix décerné par l'Académie au prince de Rosen pour un ouvrage historique. Astier fut rapporteur. Toutefois, l'écart de l'âge, des positions, maintenait entre elles des distances que le deuil de la princesse supprima. Dans son éclatante rupture avec le monde, Madame Astier fut seule, exceptée, seule. Elle put franchir le perron de l'hôtel, changé en couvent, où pleurait la pauvre carmélite noire à tête basse. Seule, elle fut admise à entendre, deux fois par semaine, la messe dite à Saint-Philippe pour le repos de l'âme d'Herbert, et aussi la lecture des lettres que Colette écrivait tous les soirs à son cher absent, lui racontant sa vie, l'emploi de ses journées. Il y a dans le deuil le plus austère des détails matériels qui déshonorent la douleur, mais que veut le monde? Commandes de livrée, draperie d'équipage, les corps en contact du fournisseur aux façons hypocrites et dolentes. Et de tout cela, Madame Astier s'était chargée avec une patience inlassable et prenant en tutelle cette lourde maison que les beaux yeux brouillés de larmes ne pouvaient plus conduire. Elle épargnait à la jeune veuve tout ce qui dérangeait son désespoir, ses heures pour prier, pleurer, correspondre au-delà, et porter des brassées de fleurs rares au Père Lachaise, où Paul Astier surveillait l'érection du gigantesque mausolée en pierre commémorative, prise sur le lieu du désastre, selon le désir de la princesse. Malheureusement, l'extraction, le transport de ces rochers dalmates, le grain dur à tailler, puis les mille projets, les changeants caprices de la veuve qui ne trouvait rien d'assez grand, d'assez pompeux à la taille de son héros mort, avait causé tant de retard et d'entrave qu'en mai 1880, 2 années pleines après la catastrophe et l'entreprise des travaux, le monument n'était pas encore fini. C'est beaucoup 2 ans pour une douleur démonstrative, toujours au paroxysme, prête à se donner en une fois. Sans doute le deuil subsistait, toujours austère d'apparence, l'hôtel muet et fermé comme un caveau. Mais au lieu de la statue vivante en prière et en larmes au fond de la crypte, il y avait maintenant une jeune et jolie femme, dont les cheveux repoussaient serrés et fins avec des révoltes de vie, des frissons, des ondulements. De cette blonde chevelure revenue, le noir du veuvage s'éclaircissait comme égayé, ne semblait plus qu'un caprice d'élégance. Et dans l'allure, la voix de la princesse, on sentait l'activité printanière, cet air soulagé, paisible, qu'on trouve chez les jeunes veuves à la seconde période de leur deuil. État charmant. La femme goûte pour la première fois la douceur de cet affranchissement, de cette libre possession d'elle-même qu'elle n'a pas connue, passée toute jeune de la famille au mari. Elle est délivrée de la grossièreté du mal et surtout de cette crainte de l'enfant, de cette terreur dans l'amour qui est la caractéristique de la jeune femme moderne. Et l'évolution toute naturelle de la douleur débordante à ce complet apaisement s'accentuait ici de l'appareil du veuvage inconsolable dont la princesse Colette continuait à s'entourer, non pas par hypocrisie, mais comment, sans faire sourire la valetaille, donner l'ordre d'enlever ce chapeau qui attendait dans l'antichambre, cette canne en évidence, ce couvert pour l'absent. Comment dire, le prince ne dîne pas ce soir. Seule la correspondance mystique à Herbert au ciel avait faibli, espacé de jour en jour, réduite à un journal sur un ton fort calme, dont s'abusait sans rien dire l'intelligente amie de Colette. C'est qu'elle avait son plan, Madame Astier. Une idée germée dans sa solide petite tête un mardi soir aux Français, sur cette confidence à voix basse du prince d'Athis. Oh, ma pauvre Adélaïde, quel boulet, que je m'ennuie! Tout de suite, elle pensait à le marier avec la princesse, et ce fut un nouveau jeu, à l'envers du premier, non moins délicat et charmant. Il ne s'agissait plus de prêcher l'éternité des serments, de chercher dans Joubert ou autres honnêtes philosophes des pensées comme celle-ci, copiées par la princesse en tête de son livre de mariage. On n'est épouse et veuve avec dignité qu'une fois. ni de s'extasier sur les grâces viriles du jeune héros dont l'image en pied, en buste, de profil ou de trois quarts, sculpture, peinture, se dressait par tout l'autel. Au contraire, une dépréciation graduée et savante. Ne trouvez-vous pas, cher ami, ces portraits du prince lui font la mâchoire trop lourde? Oh, sans doute, je veux bien, il avait tout ceci un peu fort, un peu épais, et à tout petit coup, empoisonnés avec une douceur, une adresse infinie, se reprenant quand elle allait trop loin, guettant le sourire de Colette à une malice appuyée, elle arrivait à lui faire convenir que son Herbert avait toujours été pas mal raître, plus gentil homme de nom que de façon. Sans le grand air, par exemple, ce prince d'Athis rencontré l'autre dimanche sur le perron de Saint-Philippe. Et si le cœur vous en dit, il est à marier, ma chère. Ceci jeté comme en l'air, sur un ton de badinage, mais repris, présenté plus clairement. Et pourquoi pas, toutes les convenances y seraient, grand nom, situation diplomatique considérable, et pas de changement à la couronne ni au titre, ce qui avait bien son importance ménagère. Enfin, ma chère, s'il faut vous l'apprendre, un homme qui a pour vous le plus vif sentiment. Ce mot de sentiment blessa d'abord la princesse, comme un outrage, mais elle s'habitua à l'entendre. Me rencontrer d'Athis à l'église, puis rue de Beaune, en grand mystère, et Colette convenait bientôt que lui seul aurait pu la faire renoncer au veuvage. Mais quoi, son pauvre Rosen l'avait aimé si dévotement, si uniquement. Oh, uniquement, faisait Madame Astier dans un petit sourire renseigné que suivaient des allusions, des demi-mots, et comme toujours, l'empoisonnement de la femme par la femme. Mais, cher ami, il n'y a pas d'amour unique de mari fidèle. Les honnêtes, les élevés s'arrangent pour ne pas attrister, humilier leur femme, troubler leur ménage. Alors vous croyez qu'Herbert, mon Dieu, mais comme les autres. La princesse se révoltait, boudait, fondait en ses larmes faciles, sans douleur, d'où la femme sort apaisée, rafraîchie, comme une pelouse après leur rondée. Tout de même, elle ne cédait pas, au grand dépit de Madame Astier, bien loin de soupçonner la cause réelle de cette résistance. Le vrai, c'est qu'à force d'examiner ensemble ce projet de mausolée, frôlant leurs mains et leurs cheveux, sur les plans, les esquisses de caveaux et de statues funèbres, Paul et Colette s'étaient pris l'un pour l'autre d'une sympathie de camarades, peu à peu devenue plus tendre, jusqu'au jour où Paul Astier, surpris dans un regard posé sur lui, le trouble d'un caprice, presque un aveu. Cette possibilité, ce rêve, ce prodige, lui apparut de Colette de Rosen, l'épousant, lui apportant ses 20 ou 30 millions. Oh, plus tard, après un stage de patience, un siège en règle de la place. Avant tout, se méfier de maman, très subtile, très forte, mais péchant par abus de zèle, surtout lorsqu'il s'agissait de son pôle. Elle brûlerait toutes les chances à vouloir hâter la réussite. Il se cachait donc de Madame Mastier, sans se douter qu'elle allait à contre-mine dans le même chemin que lui. Agissait tout seul, très lentement, charmant la princesse par sa jeunesse élégante, sa gaieté, son esprit blagueur dont il avait soin de rentrer les griffes, sachant que la femme, comme le peuple, comme l'enfant et tous les êtres de naïveté et de spontanéité, déteste l'ironie qui la déconcerte, et qu'elle sort l'antagoniste des enthousiasmes, des rêveries, de l'amour. Ce matin de printemps, le jeune Astier arrivait avec plus d'assurance encore que d'habitude. C'était la première fois qu'il déjeunait à l'hôtel de Rosen, sous prétexte d'une visite à faire ensemble au Père Lachaise, pour voir les travaux sur la place. On avait choisi le mercredi, jour de Madame Astier, par une complicité muette afin de ne pas l'emmener entière. Aussi, malgré sa réserve, le prudent jeune homme, en franchissant le perron, jeta négligemment sur la vaste cour, les communs somptueux, un regard circulaire enveloppant comme une prise de possession. Il se refroidit en traversant l'antichambre, où suit ses valets de pied en grandissime deuil, mâle somnolait sur les banquettes et semblait en veillée funèbre. Autour du chapeau du mort, un superbe chapeau gris annonçant la belle saison et l'entêtement de la princesse à la perpétuité du souvenir. Paul s'en trouva vexé comme de la rencontre d'un rival, ne se rendait pas compte de la difficulté pour Colette, captive d'elle-même, d'échapper à son immense deuil. Et furieux, il se demandait « Mais est-ce qu'elle va me faire déjeuner avec lui ?» quand le valet, qui lui prenait sa canne et son chapeau, l'avertit que Madame la Princesse attendait monsieur dans le petit salon. Tout de suite introduit sous la rotonde vitrée, verdi de plantes rares, il se rassura par la vue de deux couverts dressés sur une toute petite table dont Madame de Rosen surveillait elle-même l'installation. Une fantaisie, en voyant ce beau soleil. Oh, nous serons comme à la campagne. Elle avait ruminé tout cela toute la nuit, de ne pas manger avec ce beau garçon devant le couvert de l'autre, et ne sachant comment s'y prendre pour les gens, elle avait imaginé de céder la place, de commander tout à coup en caprice dans la serre. En somme, le déjeuner d'affaires s'annonçait bien. Le romané blanc au frais dans la vasque du petit rocher, parmi les fougères et les capillaires du soleil sur les cristaux, sur la laque verte, des feuilles découpées, et les deux jeunes gens, face l'un de l'autre, leurs genoux se touchant presque, lui très calme, ses yeux clairs brûlants et froids, elle toute rose et blonde, ses cheveux repoussés en fin plumage ondé, marquant la femme de sa petite tête, sans le moindre artifice de coiffure féminine. Et tandis qu'ils parlaient de choses indifférentes, mentant à leurs vraies pensées, Paul Astier triompha de voir là-bas, dans la salle à manger déserte, souvent au va-et-vient silencieux du service, le couvert du mort, réduit pour la première fois à l'ennui de la solitude. Chapitre 3. Adresse d'enveloppe. Mademoiselle Germaine de Fredet, Clos Jallanges, par Mousseau, Loir-et-Cher. Voici très exactement, ma chère sœur, l'emploi de mon temps à Paris. Oh, je compte écrire cela chaque soir et t'envoyer le paquet deux fois par semaine, tout le temps de mon séjour. Donc, arrivé ce matin lundi, descendu comme toujours dans mon calme petit hôtel de la rue Servandoni, où je n'entends du Grand Paris que les cloches de Saint-Sulpice et le bruit continuel d'une forge voisine, ce fer frappé en mesure que j'aime comme un rappel du village. Tout de suite, couru chez l'éditeur. « Quand paraissons-nous ?» « Votre livre, mais il a paru il y a 8 jours. »« Paru et même disparu dans les profondeurs de cette terrible usine Marivet, toujours fumante, haletante, en mal d'un bouquin nouveau. » Lundi, justement, c'était le lançage d'un grand roman de Hochscher, « La Faunesse », tiré à je ne sais combien de 50 000 exemplaires, en pile, en ballot, dans toute la hauteur de la librairie. Et d'une figure, la tête distraite des commis, l'air égaré, tombé de la lune, de l'excellent Manivet quand j'ai parlé de mon pauvre volume de vers et de mes chansons Priboisseaux. J'ai demandé quelques exemplaires destinés aux membres de la commission et me suis sauvé à travers des rues, de vraies rues de Faunesse montant jusqu'au plafond. En voiture, regardez, feuilletez le volume. qui m'a plu avec la gravité de son titre, Dieu dans la nature. Un peu mince, peut-être, à la réflexion, les lettres du titre, pas assez noires, ne diront pas l'œil, mais bon, ton joli nom de Germaine en dédicace nous portera bonheur. Laissez deux exemplaires rue de Beaune chez les Astiers, qui n'ont plus, comme tu sais, leur appartement des affaires étrangères. Madame Astier a cependant gardé son jour. Ah, mercredi donc, pour savoir ce que le maître pense de mon œuvre. Et je file à l'institut où j'arrive encore en pleine usine, à vapeur. Vraiment, l'activité de ce Paris est prodigieuse, surtout pour ceux qui, comme nous, vivent toute l'année au calme et au large des champs. Trouver Picheral, tu sais, le monsieur Cipolli du secrétariat, qui t'avait si bien placé il y a 3 ans à la séance de mon prix. Le Picheral et ses commis, dans un brouhaha de noms, d'adresses, jetés d'un bureau à l'autre parmi l'étalage des cartes bleues, jaunes, vertes, des tribunes, partout, pourtour, hémicycle, entrée A, entrée B, enfin, tout le lancement des invitations à la grande séance annuelle qu'honorera cette fois une altesse en tournée. Le grand-duc Léopold. Désolé, monsieur le vicomte, Picheral m'appelle toujours ainsi. Tradition de Chateaubriand, sans doute, mais il faut attendre. Faites fête, monsieur Picheral. Très amusant, le bonhomme, et très courtois. Il me fait penser à Bonnicard, dont le son de maintien, dans la galerie couverte chez grand-mère de Jallanges. Et irritable, comme notre ancien maître à danser, quand on le contrecarre. Oh, j'aurais voulu que tu l'entendes parler au comte de Bretigny, l'ancien ministre, un des grands seigneurs de l'Académie, venu là pendant que j'attendais pour une réclamation de jetons. Il faut te dire que le jeton de présence vaut 6 francs, l'ancien écu de 6 livres, et ils sont 40 académiciens, soit 240 francs par séance, à répartir entre les assistants dont la part est plus forte, naturellement, quand ils sont moins nombreux. La paye se fait tous les mois en écus dans des sacs de gros papier, portant chacun épinglé dessus son bordereau comme une note de blanchisseuse. Bretigny n'avait pas son courte. Il lui manquait 2 jetons, et c'était tout ce qu'il y a de plus nord. Ce richissime Richard, président de je ne sais combien de conseils d'administration, venant en équipage réclamer ses 12 francs. Il n'en a eu que 6, que Picheral, après un long débat, lui a jeté de haut comme un commissionnaire et qu'a empoché l'immortel avec une joie infinie. C'est si bon, l'argent gagné à la sueur de son front. Car il ne faut pas croire qu'on flâne à l'Académie. Ces laits, ces fondations dont le nombre augmente d'année en année, tant d'ouvrages à lire, des rapports à grossoyer, et le dictionnaire, et les discours. Posez votre livre, mais ne vous montrez pas, m'a dit Picheral, apprenant que je concourais. Cette besogne forcée qu'on leur apporte rend nos messieurs féroces aux postulants. Ah, je me rappelle en effet l'accueil de Ripaud Babin et de Lamboire à mon dernier prix. Toutefois, quand c'est une jolie femme, les choses se passent autrement. La Riboire devient grivois. Ripaud Babin, toujours bouillant, quoi, octogénaire, offre à la candidate un peu de pâte de guimauve et chevrotte. Portez-la d'abord à vos lèvres, je la finirai. J'ai cueilli le propos au secrétariat même où les immortels sont traités avec une aimable désinvolture. Le prix Boisseau, attendez donc. Vous avez 2 ducs, 3 Pelleteloup, 2 Cabotins. Et c'est ainsi que, dans l'intimité des bureaux, se subdivise l'Académie française. Les ducs, oh, ce sont tous les gens de noblesse et l'épiscopat. Les paix de loup comprennent des professeurs et savants divers. Et par cabotin, on entend les avocats, hommes de théâtre, journalistes, romanciers. Ayant donc les adresses de mes paix de loup, Ducs et cabotins, j'ai dédicacé un de mes exemplaires à l'aimable Picheral, un autre, pour la forme, au pauvre monsieur Loisillon, le secrétaire perpétuel qu'on dit à toute extrémité, et je me suis empressé de distribuer le reste à tous les bouts de Paris. Il faisait un temps superbe, le bois de Boulogne que j'ai traversé en revenant de chez Ripaud-Babin. Portez-le d'abord à vos lèvres. Embaumez l'aubépine et la violette. Oh, je me croyais chez nous, à ces premiers jours de printemps hâtifs, où l'on est si frais, le soleil si chaud. Et l'envie me tenait de tout négliger pour entrer à Jallanges, près de toi. Dîner au boulevard, tout seul, mélancoliquement. Fini ma soirée sur Français, au Français, où l'on jouait le dernier frontin de Desminières. Un de mes juges pour le prix Boisseau, ce Desminières aussi, ne dirais-je qu'à toi combien ces vers m'ont ennuyé. La chaleur, le gaz, oh, j'avais le sang à la tête. Tous ces comédiens jouaient comme pour le grand roi. Et pendant qu'ils dévidaient les alexandrins parisaux bandelettes d'une momie qu'on démaillote, l'odeur des épines de Jallanges me poursuivait encore. Et je me récitais les jolis vers de Du Bellay, presque un pays. Plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine, plus mon Loire gaulois que le Tibre latin, plus mon petit liré que le mont Palatin, et plus que l'air marin, la douceur angevine. Mardi, course dans Paris tout le matin, station devant les libraires, cherchant mon livre aux vitrines, la faunesse, la faunesse. On voyait que ça partout, bandé de l'annonce, vient de paraître, puis de loin en loin, un pauvre dieu dans la nature, piteux, envoui. Quand on ne me regardait pas, je me mettais sur la pile, bien en vue, mais personne ne s'arrêtait. Si, vouloir des Italiens, un nègre, très bien, l'air intelligent. Il a feuilleté mon bouquin 5 minutes, puis est parti sans l'acheter. Oh, j'avais envie de le lui offrir. À déjeuner, dans un coin de taverne anglaise, lu les journaux. Pas un mot sur moi, pas même une petite annonce. Ce malivet est si négligent. A-t-il seulement fait les envois comme il me le jure? Et puis il en paraît tant de livres, Paris en est submergé. C'est triste tout de même, ces vers qui vous brûlaient les doigts quand on les écrivait dans la joie, dans la fièvre, qui vous semblaient beaux à remplir, illuminer le monde. Et les voilà qui circulent, plus ignorés que lorsqu'ils vous bourdonnaient obscurément dans le cerveau. Un peu l'histoire de ces toilettes de bal, revêtues dans l'enthousiasme de la famille, qu'on se figure de voir tout éclipsé, tout écrasé, et qui, sous le lustre, se perdent dans la quantité. Ah, ce Herscher est bien heureux. On le lit, lui, on le comprend. J'ai rencontré des femmes ayant au bras, dans leur mantelet, ce volume jaune tout frais paru. Misère de nous, on a beau se mettre en dehors et au-dessus de la foule, c'est pour elle qu'on écrit. Séparée de tous dans son île, ayant perdu jusqu'à l'espoir d'une voile à la chute de l'horizon, Robinson, même grand génie poétique, eût-il jamais fait des vers? Longuement réflexionné là-dessus en battant les Champs-Élysées, perdu comme mon livre dans ce grand flot indifférent. Je revenais dîner à mon hôtel, pas mal assombri comme tu penses, quand sur le quai d'Orsay, devant la ruine envahie de verdure de la Cour des Comptes, je me heurte à un grand diable encombrant et distrait. « Frédet, Védrine !» Tu n'as pas oublié, mon ami, le sculpteur Védrine, qui, du temps qu'il travaillait à Mousseau, était venu passer une après-midi à Clos-Jallanges avec sa jeune et charmante femme. Ben, il n'a pas changé, seulement un peu blanc vers les tempes. Il tenait par la main ce bel enfant aux yeux de fièvre que tu admirais, s'en allait le front haut, de longs gestes descriptifs, l'air plaisant et planant et superbe d'une promenade élyséenne que suivait à distance Madame Védrine, poussant la petite voiture où riait une fillette née depuis leur voyage en Touraine. « Ben, je lui en fais trois, moi compris, » m'a dit Védrine, montrant sa femme. Et c'est bien vrai que dans le regard dont elle couvre son mari, il y a la maternité paisible et tendre d'une madone flamande en extase devant son fils et son Dieu. Causer longtemps debout contre le parapet du quai, cela me faisait du bien d'être avec ces braves gens. En voilà un, Védrine, qui se moque du succès et du public et des prix d'académie. Apparenté comme il est, cousin de l'Oisillon, du baron Huchenard, il n'aurait qu'à vouloir à teinter d'un peu d'eau son vin trop raide. Il obtiendrait des commandes, le prix biennal serait de l'Institut de main. Mais rien ne le tente, pas même la gloire. La gloire, me disait-il, oh, j'en ai goûté deux ou trois fois, je sais ce que c'est. Tiens, il t'arrive en fumant de prendre ton cigare à rebours, eh bien, c'est ça la gloire. Un bon cigare dans la bouche par le côté du feu et de la cendre. Mais enfin, Védrine, si tu ne travailles ni pour la gloire ni pour l'argent, oh ça! Oui, je sais ton beau mépris. Alors, pourquoi te donner tant de mal? Mais pour moi, pour ma joie personnelle, le besoin de créer, de m'exprimer. Évidemment, celui-là, dans l'île déserte, eût continué son labeur. C'est le véritable artiste, inquiet et curieux d'une forme nouvelle, et dans ses intervalles de travail, cherchant avec d'autres matières, d'autres éléments, à contenter son goût d'inédit. Il a fait de la poterie, des émaux, ces belles mosaïques de la salle des gardes que l'on admire à Mousseau. Puis, la chose achevée, la difficulté vaincue, il passe à une autre. Son rêve en ce moment, c'est d'essayer de la peinture. Et sitôt son paladin terminé, une grande figure de bronze pour le tableau de Rosen, il compte, comme il dit, se mettre à l'huile. Et sa femme approuve toujours, chevauche avec lui toutes ses chimères. La vraie femme d'artiste, silencieuse, admirante, écartant du grand enfant ce qui blesserait son rêve, heurterait son pied dans sa marche d'astrologue. Une femme, ma chère Germaine, à faire désirer le mariage. Oui, j'en connaîtrai une pareille, je l'amènerai à Clos-Jalange, je suis sûr que tu l'aimerais, mais ne t'effraie pas, les Madame Védrine sont rares et nous continuerons à vivre tous deux, comme maintenant, jusqu'à la fin. On s'est quitté en prenant rendez-vous pour jeudi prochain, non pas chez eux à Neuilly, mais à l'atelier du Quai d'Orsay, où ils passent la journée tous ensemble. Cet atelier, paraît-il, est la chose la plus extraordinaire du monde. Un coin de l'ancienne cour des comptes où le sculpteur a obtenu de travailler dans la verdure sauvage et les pierres croulantes. En m'en allant, je me retournais pour les voir marcher le long du quai, le père, la mère, les petits, tous serrés dans cette lumière paisible du couchant qui les dorait comme un tableau de sainte famille. Ébaucher quelques vers là-dessus, le soir à l'hôtel. Mais les voisins me gênent, je n'ose pas donner de la voix. Il me faut mon grand cabinet de jalange, mes trois croisées sur le fleuve et les pentes des vignes. Et enfin, nous voilà à mercredi. Le grand jour, les grandes nouvelles que je veux te donner par le détail. J'attendais, je te l'avoue, ma visite aux Astiers, avec un battement de cœur qui s'accentuait, aujourd'hui, en montant ce vieil escalier majestueux et humide de la rue de Beaune. Qu'allait-on me dire de mon livre? Mon maître Astier aurait-il seulement eu le temps de l'ouvrir? C'était si grave, le jugement de cet excellent homme, qui a gardé pour moi son prestige de professeur en chaire et devant qui je me sentirais toujours écolier. Sa décision impartiale et sûre serait certainement celle de l'Académie pour le prix Boisseau. Ah si, quelle angoisse impatiente! Tandis que j'attendais dans le grand cabinet de travail que le maître abandonne à sa femme pour sa réception de chaque semaine. Oh, ce n'est plus ici l'appartement du ministère. La table de l'historien est poussée dans une encoignure, masquée d'un grand paravent en étoffe ancienne qui dissimule en même temps une partie de la bibliothèque. En face, dans le panneau d'honneur, le portrait de Madame Astier, encore jeune, ressemblant à son fils d'une façon extraordinaire, aussi au vieux Réhu que j'ai depuis tantôt l'honneur de connaître. Ce portrait est d'une distinction un peu triste, froide et cirée comme cette grande pièce sans tapis, drapée de rideaux sombres sur une cour plus sombre encore. Mais Madame Astier vient d'apparaître et son aimable accueil transforme tout autour de moi. Qu'y a-t-il dans l'air de Paris pour garder la grâce d'un visage de femme au-delà du temps, comme sous le verre d'un pastel? Je l'ai trouvée rajeunie de 3 ans, cette blonde fine aux yeux aigus. Elle m'a d'abord parlé de toi, de ta chère santé, s'intéressant à notre ménage fraternel, puis vivement. Et votre livre, parlons de votre livre. Quelle merveille! Je vous ai lu toute la nuit. Émile Louange, délicate, 2 ou 3 vers, c'était juste, avec l'assurance que mon maître Astier était ravi. Il l'avait chargé de me le dire dans le cas où il ne pourrait quitter ses archives. Rouge d'habitude, je devais être ponceau, comme à la fin d'un dîner de chasse. Mais ma joie est vite tombée aux confidences que la pauvre femme était entraînée à me faire sur la détresse de leur situation. Des pertes d'argent, leur disgrâce, le maître travaillant nuit et jour à ses livres historiques d'une fabrication si lente, si coûteuse, et que le public n'achète pas. Puis l'aïeul, le vieux Réhu, qu'il faut aider, car il n'a guère que ses jetons, et à son âge, 98 ans, que de précautions, de gâteries. Sans doute, Paul est un bon fils, travailleur, en passe d'arrivée. Seulement, ses entrées de carrière sont terribles. Aussi, Madame d'Astier lui cache-t-elle leur misère, comme à son mari, pauvre cher grand homme, dont j'entendais le pas lourd, paisible, au-dessus de ma tête, pendant que sa femme se demandait avec un tremblement de lèvres des mots qu'elle cherchait, qu'elle s'arrachait, si je ne pourrais pas. Ah, divine, divine créature, j'aurais voulu baiser les dentelles de sa robe. Et tu comprends maintenant, sœur chérie, la dépêche que tu as reçue tantôt et pour qui les 10 000 francs que je te demande par le retour du courrier. Je pense que tu as envoyé tout de suite chez Gobineau. Si je ne l'ai pas averti directement, c'est que nous faisons de moitié, en tout, toi et moi, et que nos élans de générosité, de pitié, doivent être en commun comme le reste. Mais mon ami, est-ce effrayant, ces façades parisiennes brillantes, glorieuses, et qui cachent de telles douleurs? 5 minutes après ces navrants aveux, le monde arrive, les salons pleins. Madame Astier parlait, répondait avec une parfaite aisance d'esprit, la mine et la voix heureuse à me donner la chair de poule. Vu là, Madame Boisillon, la femme du secrétaire perpétuel, qui ferait bien mieux de garder son malade que de fatiguer la société des charmes de son délicieux appartement, le plus confortable de l'Institut, 3 pièces de plus que du temps de Villemain. Et si elle ne l'a pas répété 10 fois d'une voix rogue de commissaire-priseur et devant une amie logée à l'étroit dans l'emplacement d'une ancienne table d'hôte. Avec Madame Ancelin, un nom que citent souvent les feuilles mondaines, rien de pareil à craindre. Cette bonne grosse dame, toute ronde, la figure rouge et poupine, qui flûte ses mots, plutôt ce qu'elle recueille et colporte, Eh bien, la plus aimable personne. Encore une qui a passé la nuit à me lire. Après cela, c'est peut-être une formule. Elle m'a ouvert tout grand son salon, un des trois où fréquente et s'agite l'académie. Pichol dirait que Madame Ancelin, affolée de théâtre, reçoit plus volontiers les cabotins, Madame d'Astier les pédeloups, et que la duchesse Padovani accapare les ducs, la gentry de l'Institut. Mais, en somme, ces trois rendez-vous de gloire et d'intrigue ouvrent les uns sur les autres, car j'ai vu défiler mercredi rue de Beaune un assortiment varié d'immortels de toute catégorie. D'Anjou, l'auteur dramatique, Rousse, Boissier, Dumas, de Bretigny, le baron Huchenard des Inscriptions des Belles-Lettres, le prince d'Athis des Sciences morales et politiques. Et il y a encore un quatrième salon en formation, celui de Madame Evisa, une juive aux joues pleines, aux longs yeux étroits, et qui flirte avec tout l'Institut, dont elle porte les couleurs, des broderies vertes sur sa veste printanière et son petit chapeau aux ailes de caducée. Oh ben, un flirt jusqu'à la convenance. Je l'entendais dire à D'Anjou qu'elle invitait. Chez Madame Ancelin, c'est ici. L'on dîne, et chez moi, c'est ici, l'on aime. Il me faut les deux, logés et nourris, répondait froidement D'Anjou, que je crois un parfait cynique, sous son masque dur, immobile, sa toison noire et drue de pâtre du Latium. Belle diseuse, Madame Evisa, d'une érudition imperturbable, citant au vieux baron Huchenard des phrases entières de ses habitants des cavernes, discutant le poète Schiller avec un tout jeune critique de revue, correctement et sagement grave, le col haut sous son menton pointu. Dans ma jeunesse, on débutait par des vers pour aller n'importe où, à la prose, aux affaires au barreau. Et maintenant, c'est par la critique et généralement par une étude sur Schiller. Madame Astier m'a présenté à ce petit monsieur dont les décisions comptent dans le monde littéraire. Mais ma moustache et mon râle de soldat laboureur lui ont probablement déplu. Nous n'avons échangé que peu de mots, tandis que j'observais la comédie des candidats, femmes ou parentes de candidats, venant se montrer tâter l'eau, car Hippo Babin est bien vieux et l'oisillon ne peut durer. Deux fauteuils en perspective, autour desquels s'échangent des regards furieux, des paroles empoisonnées. « Tu sais, Dazon, ton romancier, mais il était là, bonne, franche et spirituelle figure, bien celle de son talent. Mais tu aurais souffert de le voir humble et frétillant devant une non-valeur comme Bretigny qui n'a jamais rien fait, qui tient à l'Académie la place réservée de l'homme du monde, celle du pauvre en province, aux tables du jour des rois. Et non seulement auprès de Bretigny, mais de chaque académicien qui entrait, attentif aux anecdotes du vieux Réhu, riant aux moindres malices de D'Anjou, du rire lâche, écolier, que Védry appelait à Louis le Grand le rire au professeur. Tout cela pour monter des 12 voix qu'il eut l'an dernier à la majorité nécessaire. Le vieux Jean Réhu est apparu un moment chez sa petite fille, prodigieusement vert et droit, sanglé dans sa longue redingote, avec une toute petite figure ratatinée, comme tombée dans le feu, et de la barbe courte et cotonneuse, une mousse sur de la vieille pierre. Des yeux vifs, une mémoire admirable, mais il est sourd, ce qui l'attriste, le condamne à des monologues d'intéressants et personnels souvenirs. Il nous racontait aujourd'hui l'intérieur de l'impératrice Joséphine à la Malmaison, sa payse, comme il l'appelle, créole tous deux, de la Martinique. Il nous la montrait dans ses mousselines et ses châles, sentant le musc à renverser, entouré de fleurs des colonies que, même en temps de guerre, les flottes ennemies laissaient galamment passer. Il nous parlait aussi de l'atelier David pendant le consulat. Il nous faisait le peintre, sa joue gonflée, sa bouche de travers, pleine de bouillie, tutoyant, rudoyant ses élèves. Et toujours à la fin de chaque récit, l'ancêtre, témoin de tant de choses à un hochement de toile, regarde au loin et de sa voix forte dit « Oh, j'ai vu ça, moi !» mettant en quelque sorte une signature d'authenticité au bas du tableau. Je dois dire qu'à part Danson, qui buvait hypocritement ses paroles, j'étais seul dans le salon à m'intéresser au récit de ce patriarche, plus curieux pour moi que les historiettes d'un certain Lavaux, journaliste, bibliothécaire, je ne sais trop, en tout cas terriblement bavard et renseigné. Dès qu'il est arrivé, « Ah, voilà Bavaux, Lavaux !» Et tout de suite, un cercle autour de lui, on rit, on s'ébat. Le plus sourcilleux des immortels se délecte aux anecdotes de ce gros homme, sorte de chanoine papelard et rasé, la face rubiconde, les yeux en bille, entremêlant ses potins et ses discours de « Je disais à Debreuil, Dumas me racontait l'autre soir, oh, je tiens ceci de la duchesse, s'appuyant des plus grands noms, des illustrations de tout genre, choyé de toutes ces dames qu'il met au courant des intrigues académiques, diplomatiques, littéraires et mondaines, un type de d'Anjou qui le tutoie, familier du prince d'Athis avec qui il est entré, traitant d'Alzon de haut en bas, aussi le jeune critique de Shelley, enfin, doué d'une autorité, d'une puissance que je ne puis m'expliquer. Dans le fatras d'anecdotes qu'il tirait de ses inépuisables bajoux, pour la plupart des charades à mon ingénuité provinciale, une seulement m'a frappé. L'aventure d'un jeune garde noble, le comte Adriani, qui, traversant Paris avec son obligat pour porter à je ne sais qui la barrette et la calotte cardinalis, aurait oublié ces deux insignes chez une belle de nuit, rencontrée dans la gare même au saut du wagon, et dont le pauvre garçon, éperdu dans Paris, ne savait ni le nom ni l'adresse. Et le voilà obligé d'écrire à la cour de Rome pour remplacer les deux coiffures sacerdotales dont la demoiselle doit être bien embarrassée. Le piquant, c'est que ce petit comte Adriani est le propre neveu du nonce, et qu'à la dernière soirée de la duchesse, on dit la duchesse tout court comme un mousseau, il racontait son histoire en toute innocence et dans un délicieux jargon que Lavaux imite à ravir. « Dans la gare, monsignor, il me dit, « Pepino, porte le benetto. J'avais déjà le zucchetto, avec le benetto, ça m'en faisait deux. » Et les roulements d'yeux du jeune et ardent papalin en arrêt devant la noblesse. « Christo, qu'elle est belle !» Au milieu des rires, des petits cris, « Charmant, oh, cela vaut, cela vaut !» Je demande à Madame Ancelin, assise près de moi, « Mais qu'est-ce donc que ce monsieur Lavaux? Qu'est-ce qu'il fait ?» La bonne dame apparut stupéfaite. « Lavaux? Connaissez pas? Mais c'est le zèbre de la duchesse !» Elle est partie là-dessus, courant après d'Anjou, et me voilà bien informé. Oh, ce monde parisien est extraordinaire! Son dictionnaire se renouvelle à chaque saison. Zèbre, un zèbre, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Mais je m'aperçois que ma visite se prolonge hors de toute convenance et que mon maître Astier ne descend pas. Alors il me faut partir. Je me glisse entre les fauteuils pour aller saluer la maîtresse de maison. Au passage, aperçu Mademoiselle Moser qui pleure dans le gilet blanc de Bretigny. Depuis 10 ans qu'il a posé sa candidature, le pauvre Moser, découragé, n'ose plus lui-même. Il envoie sa fille, personne déjà mûre, pas jolie, et qui se donne un mal d'Antigone, monte des étages, s'improvise commissionnaire et corvéable des académiciens et de leurs femmes, corrige les épreuves, soigne les rhumatismes des uns et des autres, use son triste célibat à cette poursuite du fauteuil où son père n'atteindra jamais. En noir, modeste, mal coiffée, elle encombre la sortie non loin de Dalzon, qui, très agité, se débat entre deux académiciens à tête de juge et proteste d'une voix étranglée. « Pas vrai, une infamie, jamais écrit cela !» Mystère, Madame Mastier, qui pourrait me renseigner, est elle-même en conférence très intime avec Lavaux et le prince d'Athis. Tu as dû l'apercevoir en voiture avec la duchesse, roulant sur les routes de Moussos, d'Athis, Samy, comme on l'appelle. Un long, mince, chauve, cassé en deux, la figure fripée d'un blanc de cire, une barbe noire jusqu'au milieu de la poitrine, comme si tous les cheveux qui lui manquaient étaient tombés dans cette barbe. Un homme qui ne parle pas et qui, lorsqu'il vous regarde, semble scandalisé que vous osiez respirer dans le même air que lui. Ministre plénipotentiaire, réservé, subtil, le genre britannique. Il est petit-neveu de Lord Palmerston. On le cote très haut à l'Institut et au Quai d'Orsay. C'est, paraît-il, le seuil de l'eau chargée d'affaires que Bismarck n'ait jamais osé regarder en face. On le dit sur le point d'occuper une de nos grandes ambassades. Que deviendra la duchesse? Le suivre, quitter Paris? C'est bien grave pour cette mondaine. Et puis à l'étranger, acceptera-t-on cette liaison équivoque et reconnue, consacrée ici comme un mariage, grâce à la tenue, au ménagement gardé et au triste état du duc hémiplégique, plus vieux de 20 ans que sa femme, qui est aussi sa nièce. Sans doute le prince s'entretenait de ces choses graves avec Lavaux et Madame Astier quand je me suis approché d'eux. Nouveau venu dans n'importe quel monde, on s'aperçoit bientôt qu'on en est peu au courant de rien, des mots, des idées, qu'on est un importun. Et je m'en allais quand la bonne Madame Astier me rappelle « Montez donc le voir, il sera si heureux !» Et je monte vers mon vieux maître par un étroit escalier intérieur. Du fond du corridor, j'entends sa forte voix. « C'est vous, Fage ?»« Ah non, mon bon maître. »« Oh tiens, Fredet, prenez garde, baissez la tête !» Impossible, en effet, de se tenir debout dans cette soupente. Et quelle différence avec les archives du ministère, où je le vis la dernière fois, cette haute galerie tapissée de carton. « Un chenil, n'est-ce pas ?» m'a dit l'excellent homme en souriant. « Mais si vous saviez quel trésor !» Et son geste indiquait un grand classeur renfermant au moins 10 000 pièces photographiques des plus rares, recueillies par lui en ces dernières années. « Il y en a de l'histoire là-dedans » répétait-il en se montant, agitant sa loupe à grimoire. « Et de la neuve, et de la solide, quoi qu'ils en aient !» Au fond, il me semblait assombri et nerveux. On a été si dur avec lui. Cette destitution brutale, et puis, comme il continuait à publier des livres d'histoire très documentés, n'a-t-on pas dit qu'il avait décatalogué des pièces du fonds Bourbon? Et d'où est venue cette calomnie? Bien de l'Institut même. De ce baron Huchenard, qui se fait appeler le prince des autographiles français, et que la collection Astier désespère. De là une guerre hypocrite et sauvage, un lancinement de perfidie, d'attaque en dessous. Mais jusqu'à mes charlequins, qu'on me conteste maintenant. Pourquoi, je vous demande? Pour un lapsus, une vétille. Maître Rabelais au lieu de frère Rabelais, comme si la plume des empereurs ne fourchait jamais. Mauvaise foi, mauvaise foi. Et en voyant que je m'indignais avec lui, mon bon maître me prit les mains. Le sauce est vilain dit. Madame Astier vous a dit, n'est-ce pas, pour votre livre. Il y en a encore un peu trop pour mon goût, mais n'importe où, je suis content. Ce dont il y a trop dans mes vers, c'est ce qu'il appelle la mauvaise herbe, imagination, fantaisie. Au lycée déjà, il nous faisait la guerre là-dessus, arrachant, épluchant. Maintenant, écoute ceci, ma Germaine. Mot pour mot, la fin de notre entretien. Moi. Pensez-vous, mon maître, que j'ai quelque chance pour le prix Boisseau? Le maître. Oh, après ce livre-là, mon cher enfant, c'est pas un prix, c'est un fauteuil qu'il vous faut. L'oisillon en a dans l'aile, Ripon ne durera pas longtemps. Oh, ne bougez pas, laissez-moi faire. Pour moi, de ce moment, votre candidature est posée. Qu'ai-je dit ou répondu, je n'en sais rien. Tel était mon trouble heureux qui me semble rêver encore. Moi, de l'Académie française. Oh, soigne-toi, sœur chérie, guéris tes maudites jambes, que tu puisses venir à Paris pour le grand jour, voir ton frère, l'épée au côté, dans l'habit vert brodé de palmes, prendre place parmi tous que la France compte d'illustre. Oh tiens, la tête me tourne, je t'embrasse vite et vais me coucher. Ton frère bien-aimant, Abel de Frédet. Tu penses qu'au milieu de ces aventures, j'ai oublié les graines, paillassons, arbustes, toutes mes emplettes. Ce sera pour bientôt, je resterai ici quelque temps. Astier Rémy m'a bien recommandé de ne rien dire, mais de fréquenter les milieux académiques. Me montrer, qu'on me voit, c'est plus important que tout.